Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 7h.
L'ARS a décidé de fermer 2 jours, pas parce qu'on n'a pas l'organisation, mais parce qu'on n'a pas les vaccins qui vont avec.
La pénurie de doses, c'est bien le problème, notamment dans le Bas-Rhin où il faut fermer les centres de vaccination pendant 2 jours la semaine prochaine. Dossier dès le début de ce journal, on va vous expliquer pourquoi. Retour à la fac au moins un jour par semaine, c'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron face à la détresse des étudiants. Mais ça va être compliqué en termes d'organisation. Avec la crise actuelle, les grandes entreprises remettent au goût du jour les pré-retraites. Ça permet de réduire les effectifs en douceur. Dans ce journal, ne manquez pas une plongée totalement inédite au cœur de la centrale nucléaire de Paluel. Notre envoyée spéciale Élise Dangean a pu assister pour la première fois à une simulation d'accident. Et puis cet air, vous le connaissez évidemment. La reine de la nuit, ce soir vous êtes invitée à l'Opéra de Paris, au programme La Flûte Enchantée, depuis votre canapé.
Et je laissais la dame terminer. Juste après ce journal, alerte sur la reprise française. C'est l'éclairage écho avec Nicolas Barré. Le regard international de Vincent Hervouet. Des finales de Grand Chelem en 5-7, même pour les femmes. Proposition d'Amélie Mauresmo et c'est oui pour Virginie Fulpin. Du tennis dans l'édito sport avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Cela fait plusieurs semaines qu'on entend des critiques sur la lenteur de la vaccination. Alors hier soir, Olivier Véran, invité du 20h de TF1, a déroulé un calendrier très optimiste.
Ce qui est important que les Français sachent, c'est que nous sommes en mesure de vacciner 1,3 million, 1,4 million Français à la fin du mois de janvier. Probablement 4 millions de Français à la fin du mois de février. 9 millions à la fin du mois de mars, 20 millions à la fin avril, 30 millions à la fin mai, 43 millions à la fin du mois de juin, ça monte, 57 millions à la fin du mois de juillet et 70 millions, c'est-à-dire la totalité de la population française, d'ici à la fin août. Ça, c'est si la totalité des vaccins que nous avons commandés sont validés par les autorités sanitaires européennes et mondiales.
Le ministre de la Santé ne parle pas en revanche d'un autre bémol, et pas des moindres, hein, celui du nombre de doses qui sont livrées à la France.
Oui, le laboratoire Pfizer va en effet réduire le nombre de flacons. Bonjour Victor Delande.
Bonjour.
Alors, vous allez nous expliquer ça, cette réduction, elle est liée à une recommandation de l'Agence européenne des médicaments.
Oui, comme les flacons de 5 doses livrés par Pfizer contiennent en fait de quoi en injecter 6, l'Agence européenne des médicaments a recommandé il y a 2 semaines de ne pas gâcher et donc d'utiliser cette 6e dose. Les autorités sanitaires ont alors pensé qu'elles avaient gagné de nouveaux vaccins. Sauf que Pfizer s'est engouffré dans la brèche et a décidé de diminuer le nombre de flacons livrés. Jusqu'à aujourd'hui, lorsque la France commandait 1000 doses, elle recevait 200 flacons. À partir de la semaine prochaine, ce sera 166 flacons qui seront envoyés. Ce qui pose un problème considérable car il n'y a plus de perte possible. Il y a 15 jours, cette 6e dose était un bonus pour vacciner potentiellement une personne de plus. Avec cette décision de Pfizer, ce bonus s'est transformé en une grosse contrainte.
Merci Victor Delande. Et cette contrainte, elle a des conséquences très concrètes dans les centres de vaccination, dans le Bas-Rhin par exemple, où le manque de doses se fait déjà sentir.
Vous êtes à Strasbourg, Arthur Mbaché. Tous les rendez-vous fixés lundi et mardi de la semaine prochaine ont été annulés.
Et résultat, au standard téléphonique, les opérateurs rappellent
Allô ?
Les gens de plus de 75 ans.
Oui, bonjour, c'est le centre de vaccination de Strasbourg au téléphone.
Oui, je vous écoute.
Je vous appelle pour changer votre rendez-vous.
Oui, d'accord.
Donc j'aurai de la place le lundi 1er février à 14h45.
14h45.
Voilà.
Normalement c'était prévu pour le 26, donc là c'est 5 jours après, donc c'est pas dramatique. Hein.
Il y a quelques personnes qui sont pas très contentes, mais sinon c'est vrai que les gens sont adorables et très compréhensifs.
Alexandre Feltz est l'adjoint au maire en charge de la santé.
Lundi et mardi, on avait plus de 600 personnes qui étaient inscrites et on a quasi trouvé pour tout le monde des rendez-vous dans la semaine suivante ou 10 jours plus tard. Alors c'est une décision départementale. Certains départements sans doute ont arrêté des lignes, arrêté des heures et l'ARS a décidé, elle, de fermer 2 jours, pas parce qu'on n'a pas l'organisation, mais parce qu'on n'a pas les vaccins qui vont avec.
Tout ça, dit-il, à cause du retard du vaccin Pfizer. À ceux qui appellent pour la première fois, les opérateurs répondent, pas de prise de rendez-vous pour l'instant, liste d'attente.
Arthur Mbaché, vous êtes à Strasbourg pour Europe 1. Hier soir, Olivier Véran a parlé de course contre la montre pour freiner la diffusion du variant anglais. Le ministre de la Santé n'exclut pas un reconfinement si la situation devait empirer, mais pour l'instant, il veut donner sa chance au couvre-feu à 10. 18h.
Un éventuel reconfinement fait particulièrement peur aux étudiants, déjà très éprouvés par la situation actuelle, on en a beaucoup parlé. Emmanuel Macron a annoncé hier qu'il pourrait revenir à l'université au moins un jour par semaine.
Bonjour Virginie Riva.
Bonjour.
Vous êtes notre spécialiste éducation, vous nous dites que ce ne sera pas si simple à mettre en œuvre.
Effectivement, car le président a également fixé une jauge limite à ce retour en présentiel de tous, licence comme master une fois par semaine. Il ne faut pas dépasser 20% de la capacité d'accueil des facs. Problème, cette annonce, elle s'ajoute à une autre mesure qui entre en application lundi, à savoir le retour de toutes les premières années en présentiel en TD à 50%. En gros, ça va être un véritable casse-tête pour les présidents d'université pour tenir ces deux exigences ensemble, organiser les emplois du temps. Et en plus, du côté des étudiants, c'est la déception. Mélanie Luce, présidente de l'UNEF.
Un jour en présentiel par semaine, c'est loin de suffire. Nous, ce qu'on demandait, c'était une alternance, une semaine présentielle, une semaine distancielle pour avoir un vrai encadrement pédagogique. Si vous pouvez aller en cours qu'un seul jour par semaine, ça ne va pas permettre de raccrocher les wagons pour tous les étudiants qui sont en train de décrocher massivement.
L'idée, c'est de se laisser 15 jours ensuite, le temps d'évaluer l'impact de ce retour au compte-gouttes en lien avec l'évolution de la situation sanitaire. Mais à ce stade, l'horizon d'un retour progressif pour tous n'est même plus vraiment envisagé. Nous sommes dans une période bourrée d'incertitudes, a dit hier le président Emmanuel Macron. Et pour les étudiants, ça n'est pas prêt de s'arranger.
Virginie Riva. Et pour les élèves de terminale, eh bien, ils sont maintenant fixés sur leurs épreuves de spécialité pour le bac, des épreuves prévues en mars qui sont finalement annulé et remplacé par le contrôle continu. On va y revenir dans le journal de 8h.
À partir de dimanche minuit, il faudra un test PCR négatif pour tous ceux qui veulent entrer en France depuis un autre pays européen.
Et oui, l'Élysée l'a annoncé hier soir à l'issue du sommet européen consacré à l'épidémie. L'Union est inquiète face aux nouveaux variants. Elle veut limiter au maximum les déplacements entre les différents pays. Écoutez la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
En raison de la situation très critique, tous les voyages non essentiels doivent être fortement découragés dans les États membres et bien sûr entre les frontières. Mais dans le même temps, il est absolument important que le marché unique fonctionne. Donc les travailleurs essentiels et les biens doivent pouvoir traverser les frontières sans problème. C'est de la plus haute importance.
La présidente de la Commission européenne au micro européen d'Isabelle Horry. Et je vous le rappelle, Clément Beaune, secrétaire d'État en charge des affaires européennes, sera l'invité de Sonia Mabrouk ce matin à 8h15.
Et ajoutons qu'en Outre-mer, la Guyane va être confinée le dimanche pour faire face à l'épidémie et précisément au variant brésilien.
7h08 sur Europe 1. Dans ce contexte de crise économique, c'est le grand retour des pré-retraites. Plusieurs grandes entreprises ont récemment signé des accords.
Et oui, PSA, Renault, Bosch, Michelin, Aéroports de Paris, Airbus ou Safran, la liste est longue, Olivier Samin. On pensait que les pré-retraites, c'était du passé, mais c'est au contraire un dispositif qui a la cote.
Oui, et il s'agit de projets assumés par les directions d'entreprise. C'est ça qui est nouveau. Ces dernières années, on voyait des départs de salariés seniors, mais ça prenait la forme de transactions individuelles, discrètement négociées, et les personnes concernées étaient prises en charge par l'assurance chômage jusqu'à leur départ en retraite. Une pratique dénoncée au passage par la Cour des comptes. Là, on a affaire à des plans en bonne et due forme qui, parfois, concernent des populations importantes. Chez Safran, par exemple, le plan négocié l'été dernier prévoit 3000 départs pour les entreprises. Ça a un coût. Il faut continuer à rémunérer les salariés jusqu'à la retraite à hauteur de 70 à 80% de leur ancien salaire. Mais ça présente aussi un intérêt, celui de pouvoir procéder à des réductions d'effectifs de manière apaisée. Voilà pourquoi, quand elles le peuvent, les grandes entreprises n'hésitent pas, quitte à envoyer un signal en totale contradiction avec le discours tenu depuis plus de 10 ans par les gouvernements, aussi bien de gauche que de droite, sur la nécessité de maintenir le plus longtemps possible les seniors dans l'emploi. Contradiction aussi avec le report de l'âge de départ à la retraite, si tant est que le gouvernement veuille toujours mener sa réforme.
Olivier Samin, on en parlait avec Laurent Cabrol. Attention, la tempête Hortense arrive sur le sud-ouest de la France. Deux départements sont actuellement en vigilance orange. Vent violent, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.
On va maintenant vous faire vivre une expérience totalement inédite dans ce journal. Un exercice de sécurité grandeur nature dans une centrale nucléaire. C'est la toute première fois que des journalistes sont autorisés à y assister. Ça se passe à Paluel, en Seine-Maritime. On y simule une série de problèmes pour les gérer. Les 300 membres de la FARN, la Force d'Action Rapide du Nucléaire, passent à l'action. Et c'est Élise Dangean qui nous le raconte.
PC FARN, PC FARN de FARN D.
Pendant plusieurs jours, des exercices simultanés sont réalisés sur le site de Paluel, en salle de commande où le réacteur est piloté grâce à un simulateur, et sur le terrain avec les équipiers de la Farne, reconnaissables grâce à leur casque rouge. Le scénario du jour est corsé. Tempête, risque vague submersion, perte du réseau électrique et évidemment pandémie. À cela s'ajoutent les aléas techniques sur le réacteur, bref, la totale.
Le scénario d'aujourd'hui, il a une chance sur 1 million de se produire.
Mais c'est indispensable pour tester au mieux les équipes, dit Jean-Marie Boursier, directeur de la centrale.
Le principe de la gestion de crise est assez simple. Il faut qu'on assure tout le temps le refroidissement du réacteur et qu'on évite de rejeter dans l'atmosphère des produits radioactifs. Et donc pour faire ça, il nous faut tout le temps de l'eau et de l'électricité.
Alors les uns se chargent de récupérer l'eau du bassin, les autres acheminent des kilomètres de tuyaux jusqu'au réacteur, pendant que l'hélicoptère apporte du matériel. Une organisation quasi militaire, et pour cause, les femmes et les hommes de la Farne ont reçu une formation inspirée de l'armée et de la protection civile. Résultat garanti.
Oui, la mission est réussie.
Prochaine mission dans quelques mois. En tout, la Farne réalise 5 à 6 exercices de ce genre chaque année. C'est donc une immersion exclusive à la centrale nucléaire que vient de nous faire vivre Élise Dangean. On l'a appris ce matin, Rémi Julienne, l'as des as de la cascade, est décédé des suites du Covid. Il avait 90 ans. On lui devait notamment les scènes spectaculaires de 6 James Bond. C'était aussi un ami toujours de Jean-Paul Belmondo. On va maintenant vous emmener sur un tout autre site qui a sa part de mystère, lui aussi, c'est l'Opéra de Paris. Vous allez pouvoir assister...
C'est vrai qu'en ce moment, je me permets, c'est autant fermé qu'une centrale nucléaire.
Ah oui, exactement. Et l'occasion se présente ce soir d'assister à la flûte enchantée de Mozart, comme si vous étiez dans la salle. Ça se passe en direct sur Internet. Diane Chénouda.
La flûte enchantée, c'est d'abord cette musique aérienne de Mozart, avec le fameux air de la Reine de la Nuit, interprété par la célèbre soprano Sabine de Vienne. Heureuse de chanter ce soir en direct, même devant une salle vide.
C'est un grand exercice parce que finalement, on se charge, nous, énormément de l'énergie de la salle et on a besoin des bonnes ondes du public. Donc, on compte sur les spectateurs à travers leurs écrans pour nous soutenir à distance.
La flûte enchantée, un merveilleux conte initiatique, une méditation sur la vie, l'amour, la mort. La soprano mesure la chance qu'elle a de pouvoir se produire sur une scène en ce moment.
On se sent privilégié de pouvoir jouer tout simplement parce qu'on pense à tous nos collègues qui sont privés de pouvoir faire leur métier, parfois qui sont privés de pouvoir manger à la fin du mois. Voilà, nous on a énormément de chance et on va porter haut le flambeau de la culture.
Et cela peut permettre à ceux qui ne seraient pas forcément venus à l'opéra de découvrir cette merveille.
La flûte enchantée, c'est donc ce soir sur le site de l'Opéra de Paris à 19h30 et ça coûte 11,90€.
C'est génial. Franchement, c'est génial. On est privé de ces spectacles absolument somptueux. L'impression de pouvoir être à l'opéra. Je suis en train de préparer ma soirée. Là.
Je vois ça.
On en parlait avec Nicolas Barret, qui est un grand amateur de musique aussi. Nicolas, bonjour. Et la flûte enchantée. Ou alors j'ai une autre ambiance à vous proposer, Hélène Zellani. C'est à Wuhan. Ah, c'est pour le contraste, hein. Nous, on va regarder l'opéra sur le canapé. Et à Wuhan, c'est des boîtes de nuit, cigarettes, la musique qui est repartie comme avant. Ça fait un petit peu rêver. 7h14, c'est une autre musique, cela dit. Nicolas Barret est un peu moins sensible, j'ai l'impression. 7h14 sur Europe 1. Très bon réveil à tous.
Europe 1.